de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Comment le Collège Royal créé par François Ier est-il devenu le Collège de France ? Quels sont les grands moments de son histoire ? Comment l'enseignement a-t-il évolué ? Quelles sont les disciplines dites fondamentales ? Quelle est la singularité du Collège de France par rapport à l'université ? Comment se crée une nouvelle chaire ? Qui sont les professeurs et comment sont-ils élus ? À qui s'adressent les cours ? Qu'est-ce qu'une leçon inaugurale ? Un séminaire ? Quel est le rôle du Collège de France dans la diffusion du savoir ? Autour de la question, pourquoi le Collège de France ? La réalisation est signée Cécile Bonici.
Vous savez qu'au Collège de France, les cours représentent un poids extrêmement lourd parce que nous sommes entièrement libres de choisir le sujet, mais nous n'avons pas le droit de traiter deux fois les mêmes problèmes. Et donc, il faut inventer chaque année quelque chose de nouveau. Et inventer 10, 12 ou 18 cours sur un sujet qu'on n'a jamais traité, bien ça représente des mois et parfois même une année entière de travail acharné.
C'est la voix de Claude Lévi-Strauss au micro de Jacques Chancel en 1981. Il a été titulaire de la chaire d'anthropologie sociale au Collège de France de 1959 à 1982. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Vous êtes historien de la littérature, spécialiste entre autres de Proust, professeur au Collège de France depuis 2006, titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine. Et vous avez publié récemment au mois de juin chez Gallimard avec Pierre Corvol et John Child, le Collège de France, 5 siècles de libre recherche. S'il fallait définir le Collège de France en un mot, ce serait le mot liberté ?
C'est un mythe, mais c'est un mythe qui a une certaine vérité. Tout le monde le définit par cette tradition de la liberté. Comme Claude Lévi-Strauss le rappelait, nous choisissons nos cours chaque année avec comme seule contrainte que ce soit nouveau. Ce qui est une lourde contrainte, comme il le rappelait.
Quel est votre premier souvenir du Collège de France ? Alors, pas forcément en tant que professeur, mais avant, c'est ce que vous avez rappelé dans votre leçon inaugurale en 2006 ?
Oui, il se trouve que quand j'étais étudiant, bon, j'étais élève à l'école polytechnique. L'école polytechnique, c'était sur la montagne Sainte-Geneviève, tout près, à 100 mètres du Collège de France. Et j'ai donc assisté à un certain nombre de cours. Et dans ma leçon inaugurale, je rappelais la visite de Roman Jakobson, le grand linguiste, invité par Claude Lévi-Strauss. Donc, j'ai assisté à ses leçons et à ses analyses de poèmes à la manière structurale qui était celle de Jakobson et de Lévi-Strauss. Et puis j'ai assisté au cours de Michel Foucault lorsqu'il faisait Discipline et punir. Et j'ai assisté au cours de Roland Barthes un peu plus tard. Alors là, j'étais déjà un peu plus avancé dans mes études. Mais ce sont de grands souvenirs, de, je crois que pour tout étudiant qui est passé par le Collège de France et qui a entendu de grands maîtres.
C'est toujours intimidant d'arriver au Collège de France, même quand on est élu professeur après une longue et belle carrière, on est quand même intimidé ?
Bon, la leçon inaugurale est un rite intimidant. Tous les professeurs sont là au premier rang, ils vous écoutent. Vous leur avez rendu visite et ils ont voté pour vous. Mais on a tout de même le sentiment que le jour de la leçon inaugurale, ils se demandent s'ils ont fait le bon choix. C'est donc un examen. Et à la sortie des leçons inaugurales, les professeurs papotent toujours entre eux pour évaluer la leçon inaugurale.
Alors on parlait de cette liberté, Antoine Compagnon, la première liberté c'est que chacun, tout un chacun est libre d'assister au cours.
Oui, alors il y a une liberté du public, puisque le Collège de France ne décerne pas de diplôme, n'a jamais décerné de diplôme depuis sa création. Et c'est sans doute la première originalité, puisque la liberté d'enseignement des professeurs, elle est liée à cela. Puisqu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de curriculum, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'examen, donc nous enseignons la recherche en train de se faire. Et c'est ce qui s'est fait, sinon depuis le début, du moins à l'époque moderne.
Alors le Collège de France est aujourd'hui extrêmement moderne, tous les cours sont en ligne, on en parlera tout à l'heure, mais on va revenir au tout début, à la création du Collège Royal à l'époque de François Ier. Écoutez l'historien Marc Fumaroli, c'était en 2002 sur France Culture, et il préside aujourd'hui le comité pour l'histoire du Collège de France.
Fudé peut être considéré comme le véritable, sinon fondateur, du moins concepteur, comme on dirait aujourd'hui, du collège. Et vous savez d'ailleurs que dans les projets qu'il avait imaginés, il comptait demander à Erasme d'être le premier administrateur de ce collège. Et puis Erasme, qui avait aidé à fonder le collège trilingue de Louvain, en marge de la vieille université de Louvain, qui avait aidé à concevoir sur un programme nouveau les collèges de l'université d'Oxford, a hésité à assumer cette responsabilité, et finalement, il a refusé.
Quel est le projet, Antoine Compagnon, qui préside à la création de ce collège royal?
Alors le projet n'est pas exclusivement français, comme Marc Fumeroli le rappelait. Louvain, Oxford, Alcala avaient la même idée de réintroduire les langues anciennes qui étaient négligées par les universités médiévales. Donc les disciplines qui sont fondatrices du Collège de France et qui sont restées pratiquement jusqu'à la Révolution française, le noyau, ce sont le grec, l'hébreu et les mathématiques. Ce à quoi la Sorbonne, de l'autre côté de la rue, résistait. Il y avait donc cette sorte de polémique entre les disciplines anciennes et la Renaissance. Le Collège de France est une création de la Renaissance, et la Renaissance est européenne. Et au fond, le Collège de France vient même un peu plus tard que ses équivalents espagnols ou anglais. L'idée, c'est de relire les textes de l'Antiquité. Et n'oublions pas que 1530, c'est un moment heureux. Hein. C'est avant les guerres de religion. François Ier a une sœur qui est Marguerite, qui est particulièrement éclairée.
Marguerite de Navarre. Collège de France a un grand amphithéâtre
construit dans les années 90 sous la cour s'appelle Marguerite de Navarre, parce que nous devons à Marguerite de Navarre et à l'esprit de cette Renaissance heureuse, de cet évangélisme, d'avoir pu exister. Ce qui est prodigieux, c'est que ce Collège de France qui a été tout petit et qui est au fond a été créé de rien, a miraculeusement traversé toutes les vicissitudes d'une histoire de France qui est parmi les plus bouleversées de toutes les histoires, avec grand nombre de révolutions. Donc il a été créé d'abord contre la Sorbonne et le latin, mais c'est aussi pourquoi il n'y a pas de diplôme, parce que la Sorbonne avait le monopole des diplômes et ne voulait pas y renoncer.
Qui sont les premiers professeurs? On dit les lecteurs à l'époque?
Lecteurs, il s'appelle lecteur justement, par distinction de la Sorbonne. Alors le plus célèbre, c'est sans doute Ramu, hein, puisque Ramu est mort lors de la Saint-Barthélemy. À la fois, c'est un grand humaniste et c'est un mathématicien, un logicien. Et en plus, il a laissé un legs au Collège de France. Donc c'est probablement des premiers, celui dont l'homme mémoire doit être le plus honoré. Puis bien sûr, il faut parler de Guillaume Budé, qui est le fondateur auprès de François Ier.
Et vous dites dans cet ouvrage sur le Collège de France que ces premiers lecteurs n'avaient pas vraiment de statut autonome. Il se trouve qu'ils étaient itinérants, polyvalents. Il y a déjà une variété à l'époque. Est-ce que les disciplines circulent?
Le problème, c'est que le Collège de France n'avait pas de lieu. Et comme le royaume a toujours été pauvre, et qu'il l'est toujours, l'État est toujours pauvre, et il faudrait sans doute que nous en reparlions de ces aspects financiers du Collège de France, il n'y avait pas de lieu. Donc il s'est installé de manière précaire. Et le bâtiment que l'on connaît aujourd'hui, le bâtiment de Chalgrin, il date de la fin du 18e siècle,
donc
juste avant
la place Marcelin Berthelot dans le 5e arrondissement
de Paris. Au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue des Écoles, c'est un bâtiment de la fin du 18e siècle, peu avant la Révolution, ce qui est au fond une seconde fondation du Collège de France dont il faut parler. Mais jusque-là, le collège est mal loti. Il y a eu un projet sous Henri IV pour l'installer du côté de l'Institut, enfin, ce qui deviendra l'Institut, puisque l'Institut est ultérieur, hein, l'Académie française et les cinq académies. Et donc Le collège a été mal loti, les lecteurs royaux ont été souvent mal payés. Il y a beaucoup dans les archives de plaintes sur l'absence de leur traitement. Et pendant longtemps, ils avaient d'autres activités. Hein. Il faudrait pas croire que le Collège de France est tellement, sous l'Ancien Régime, séparé de l'université. J'ai dit que sa fondation avait été faite contre l'université, mais il y a eu par la suite beaucoup de va-et-vient entre les différentes institutions de savoir, que ce soit plus tard, sous Louis XIV, le muséum. On voit beaucoup de professeurs, par exemple en médecine. Il y a eu beaucoup, beaucoup de médecins. J'ai dit au début, c'était les langues anciennes et les mathématiques, puisqu'il s'est très vite ajouté, c'est la médecine qui était très fortement représentée comme discipline fondamentale. Il y a, quand on regarde le nombre de médecins qu'il y a eu au Collège de France sous l'Ancien Régime, c'est ce qui domine. Et il y a des médecins dans toutes les disciplines, puisque les médecins font aussi du latin, du grec et même des mathématiques. Donc il y a des médecins partout.
Et on va justement parler de la médecine dans un instant, Antoine Compagnon, avec la figure de Claude Bernard. Je vous propose de faire une pause, vous qui aimez Baudelaire, avec Gainsbourg, Baudelaire sur RFI.
Chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amère, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Gainsbourg, Baudelaire sur RFI, on parle de l'histoire du Collège de France avec Antoine Compagnon. Vous êtes l'auteur avec Pierre Corvol et John Scheid d'un livre intitulé Le Collège de France, 5 siècles de libre recherche. Et on parlait à l'instant de la médecine très rapidement, au fond introduite en tant que discipline fondamentale dans l'enseignement du Collège de France. Je voudrais vous faire écouter précisément ce que dit l'un de vos co-auteurs, Pierre Corvol, sur le fondateur de la médecine expérimentale, Claude Bernard.
Le cours de Claude Bernard consistait pour l'essentiel à faire devant son public une démonstration ou une recherche. C'était vraiment donc la recherche qui se construisait, qui était la base du cours. Quelque chose qui n'est plus possible à l'heure actuelle, mais imaginez un professeur finalement de sciences naturelles qui, lorsque il étudie la contractilité d'un muscle sous l'effet de la stimulation d'un nerf devant les jeunes sur une grenouille, eh bien Claude Bernard découvrait cela. Donc c'est assez extraordinaire de voir cela. L'autre chose qui est assez extraordinaire quand on feuillette ses carnets, c'est que il a balayé un champ de connaissances incroyable. D'aujourd'hui, on est extrêmement centré sur un problème donné. Là, dans ce que j'ai pu lire de Claude Bernard. Il s'intéresse à la reproduction, à la physiologie de la digestion, il s'est intéressé au système nerveux sympathique, il s'est intéressé au mécanisme d'action du curare, enfin, un nombre de choses incroyables.
Alors avec Claude Bernard, on est déjà au 19e siècle, Antoine Compagnon, mais cette notion de médecine expérimentale et par extension de science expérimentale est fondamentale pour comprendre comment fonctionne le Collège de France.
Toutes les sciences sont devenues expérimentales au 19e siècle. Et peut-être faudrait-il rappeler que la vraie révolution du Collège de France, c'est pourquoi a-t-il survécu à la Révolution française ? Il me semble que c'est parce qu'il avait déjà fait sa révolution, juste avant, au moment où on a construit les bâtiments et où il y avait ce qu'on appelait un inspecteur, c'est-à-dire administrateur, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelait l'abbé Garnier, qui à partir des années 1760-1770 a compris qu'il fallait faire évoluer les disciplines et ne pas rester aux disciplines originales de la création du collège. Et on a commencé à avoir à ce moment-là des chaires de physique, de chimie, d'astronomie, et c'est ça qui a permis au collège, au fond, de survivre à la Révolution, puisqu'il était déjà dans, c'est très intéressant, il était déjà transformé sur le modèle de ce qu'allaient devenir les sciences au XIXe siècle. Et c'est de ce moment-là qu'au fond est née cette grande originalité du collège, qui est que lorsqu'un professeur se retire, eh bien, la chaire est recréée dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel sujet qui importe à ce moment-là. Il n'y a pas de renouvellement automatique des chaires.
Et parfois, le nom de la chaire est modifié.
Oui, le nom des chaires. Alors, bien sûr, il y a eu une chaire de mathématiques depuis l'origine jusqu'aux années 30. Ça s'est toujours appelé mathématiques. Puis maintenant, il y a des intitulés qui sont beaucoup plus divers. Il y a toujours eu une chaire de grec ou une chaire de latin. Il y a une chaire de littérature française depuis le milieu du XVIIIe siècle. Mais la norme est devenue, à partir de ce moment-là, elle s'est très fortement affirmée au XIXe siècle, de nouvelles chaires chaque fois qu'il y avait une ligne budgétaire libérée.
Le nom de Collège de France date de quand exactement ?
Alors le nom de Collège de France, bon, c'est Collège Royal, Collège Impérial, Collège Royal de nouveau, et le nom de Collège de France date de la Troisième République, comme beaucoup de nos institutions.
Quand on pense au Collège de France, Antoine Compagnon, on pense à un havre de paix et de savoir. En réalité, l'histoire est beaucoup plus tumultueuse qu'on ne le pense.
L'histoire est tumultueuse, oui. Bon, j'évoquais la Révolution française.
Mais pas seulement.
Le 19e siècle a été difficile, puisque le 19e siècle est un moment d'intervention des politique dans les disciplines scientifiques. La révolution de 48, il y a eu les exclusions de Michelet, de Quinet auparavant, il y a eu l'exclusion de Renan,
de Renan
après
au moment de l'apparition de la vie de Jésus.
Au moment de la vie de Jésus. Donc, sous le régime de Napoléon III, du Second Empire, le règlement qui avait cours à ce moment-là donnait aux prince-président et puis à l'empereur, la possibilité de nommer des professeurs au Collège de France. La véritable liberté du Collège de France, totale, hein, elle est advenue à partir de 1873, sous l'administration de Renan et sous la Troisième République. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus d'intervention du pouvoir dans le fonctionnement tout à fait autonome du Collège de France.
Si on prend l'exemple de Michelet dont vous parlez dans ce livre, il a été exclu par le ministre de l'instruction publique, sous prétexte qu'il faisait de la politique au fond dans ses cours. Hein. Il y avait trop de passion.
On leur reprochait d'avoir de la passion politique. Il faut imaginer que les cours des grands professeurs de la Sorbonne aussi, hein, parce que les grands cours publics de la Sorbonne comme du Collège de France avaient un effet comme la télévision aujourd'hui. Donc ça faisait peur.
On continue de parler de cette passionnante histoire du Collège de France. Antoine Compagnon, vous restez avec nous. On se retrouve juste après les informations.
Autour de la question.
Sophie Joubert.
autour de la question « Pourquoi le Collège de France ?» avec Antoine Compagnon, historien de la littérature, professeur au Collège de France depuis 2006. Votre cours pour l'année 2015-2016, que vous commencerez début janvier, s'intitule « Les chiffonniers littéraires, Baudelaire et les autres ». Et vous avez publié récemment aux éditions Gallimard « Le Collège de France, 5 siècles de libre recherche ». Je voudrais qu'on s'intéresse précisément à l'histoire de votre discipline, la littérature au sein du Collège de France. Je voudrais vous faire écouter la voix de Paul Valéry, qui a occupé la chaire de poétique entre 1937 et 1945. Écoutez sa voix, c'était en 1941.
Ce cours, vous le savez, n'est pas un enseignement. Le Collège de France admet heureusement une liberté d'expression et une liberté de point de vue qui est presque sa raison d'être. Puisqu'à côté des choses qui s'enseignent, il admet qu'on parle ici pour exciter l'appétit de quelque chose. Eh bien, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait ici un cours de poétique, ou plutôt non pas pourquoi, mais comment il s'est fait que j'ai été amené à cette conception de la poétique qui s'est présentée à mon esprit lorsque mes regrettés amis, M. Joseph Bédier et M. Moray, Bédier administrateur du collège et Moray professeur ici d'égyptologie, ont inventé cette idée que je pourrais être ici professeur au Collège de France, ce qui m'a beaucoup étonné n'ayant jamais enseigné de ma vie, et ne me sentant pas tout à fait une âme de professeur.
Antoine Compagnon, la chaire de littérature s'est transformée en chaire de poétique avec et pour Paul Valéry.
Absolument. Alors je le rappelais, c'est une chaire qui, avec des parenthèses, existe en gros depuis le milieu du XVIIIe siècle. Une chaire de littérature française moderne. Elle a été occupée par différentes personnalités. Au début du XXe siècle, c'était Émile Deschanel, le père de Paul Deschanel, le président de la République, et un condisciple de Baudelaire au lycée Louis-le-Grand, que Baudelaire traitait de petit professeur pour demoiselle. Mais ensuite, il y a eu le grand spécialiste de la Renaissance, Abel Lefranc, pendant plus de 30 ans. Et quand il a pris sa retraite, en 1936, on a pensé à élire Paul Valéry, ce qui était donc quelque chose de complètement différent. On avait un historien très érudit de la Renaissance française, spécialiste de Rabelais. Et puis ensuite, on a eu un poète, Valéry, pendant quelques années. Puis on a eu de nouveau un historien de la littérature. Et puis il y a eu Yves Bonnefoy, qui est un petit peu l'héritier de cette chaire de Paul Valéry. Donc il y a eu des variantes, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Au fond, il faut qu'il y ait toujours une chaire de littérature française, mais comme ce n'est pas l'université, ça peut être un représentant de quelque chose de très différent dans le domaine.
Oui, parce qu'au fond, avec cette chaire, Valéry a continué son œuvre plus qu'il n'a enseigné l'histoire de la littérature. Il était assez réfractaire à l'histoire de la littérature.
Absolument. Il a enseigné ce qu'il appelait poétique, ce qui était au fond une théorie de l'inspiration et théorie de la création. Réflexion, méta-réflexion sur la création littéraire.
Et il a été titulaire de cette chaire pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Collège de France pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi pendant la Première d'ailleurs ?
Pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a eu aucune élection pendant les 4 ans. Le Collège de France a beaucoup travaillé pour l'effort de guerre. Tous les scientifiques ont été mobilisés. Je dois me corriger, il y a eu une seule élection, c'est celle de Charles Moureux, qui était un chimiste, un grand chimiste, et un chimiste qui travaillait en effet pour l'effort de guerre et pour les gaz de combat. C'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas eu le prix Nobel un peu plus tard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en revanche, il y a eu 9 élections, 3 fois 3. Aucune n'a été cassée. Il n'y a eu aucune révocation de ces 9 élections en 1944 à la Libération, ce qui veut dire qu'elles étaient toutes dignes et indépendantes. Il n'y a pas eu de compromission. Dans les notes de Farrell, qui était l'administrateur à l'époque, on trouve la trace de beaucoup de pression qui avait été faite par Vichy, mais le Collège de France a su y résister en faisant des 3 paquets de 3 élections qui étaient diplomatiquement dosés pour que ça passe auprès de Vichy. Le Collège de France, évidemment, a beaucoup souffert durant cette période. Il ne faut pas oublier que l'armée allemande, en débarquant à Paris en juin 40, est allée directement au Collège de France, puisque c'est là qu'il y avait de l'eau lourde et qu'il y avait le cyclotron dans le laboratoire de Joliot. Donc, c'était l'une des priorités de l'occupation allemande le 14 juin 40. L'eau lourde, vous le savez, était partie, elle est arrivée jusqu'à Cambridge, et la collaboration s'est immédiatement interrompue, et puis dès octobre 40, Langevin a été arrêté. Les deux grands professeurs du Collège de France en physique, c'était Joliot et Paul Langevin. Et Langevin a été révoqué dès novembre 40. Hein. N'oublions pas que la grande manifestation du 11 novembre 40 sur les Champs-Élysées est liée à l'arrestation de Langevin. Donc le Collège de France s'est comporté, je dirais, très honorablement durant cette période. Bon, il y a eu la seule révocation, c'est celle de Bernard Failly, à qui j'ai consacré un livre, qui a été, lui, l'administrateur général de la Bibliothèque nationale de 40 à 44, et qui a été condamné parce qu'il a mené le combat contre la franc-maçonnerie.
On parlait avec Paul Valéry de l'histoire de cette chaire de littérature que vous occupez aujourd'hui, Antoine Compagnon. Cette chaire a donné lieu à une grande variété d'approches, dont celle de Roland Barthes. Écoutez sa leçon inaugurale, enfin un extrait, le début de sa leçon inaugurale, c'était le 7 janvier 1977.
Mes chers collègues, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je devrais certainement m'interroger sur les raisons qui ont pu incliner le Collège de France à recevoir, je dirais, un sujet incertain dans lequel chaque attribut est en quelque sorte immédiatement combattu par son contraire. Car si ma carrière a été universitaire, je n'ai pourtant pas les titres qui donnent ordinairement accès à cette carrière. D'autre part, s'il est vrai que j'ai voulu longtemps inscrire mon travail dans le champ de la science littéraire, lexicologique et sociologique, il me faut bien reconnaître que je n'ai produit que des essais, genre incertain, où l'écriture le dispute à l'analyse. Et s'il est vrai encore que j'ai lié très tôt ma recherche à la naissance et au développement de la sémiotique, il est vrai aussi que j'ai peu de droit à la représenter, tant j'ai été enclin à en déplacer la définition, à peine me paraissait-elle constituée, et à m'appuyer sur les forces excentriques, dirais-je, de la modernité, plus proche de la revue telle qu'elle que des nombreuses revues qui, dans le monde, attestent la vigueur de la recherche sémiologique. C'est donc manifestement un sujet impur que vous accueillez parmi vous, dans une maison où règne la science, le savoir, la rigueur et l'invention disciplinée.
Et le Collège de France va consacrer très bientôt un colloque à Roland Barthes les 13 et 14 novembre prochains à l'occasion du centenaire de sa naissance. Antoine Compagnon, un mot de réaction sur le début de cette leçon inaugurale?
Je suis ému parce que j'étais présent ce jour-là. Je n'étais pas présent à la leçon de Valéry que vous avez fait écouter, mais j'étais présent à la leçon de Roland Barthes qui a été mon maître. Et comme il le rappelait, l'une des richesses du Collège de France, c'est qu'il a toujours su élire des hétérodoxes dans toutes les disciplines.
Les forces excentriques de la modernité.
Voilà. Et Barthes n'y est pas resté très longtemps, malheureusement, puisqu'il est mort d'un accident devant le Collège de France 3 ans plus tard. Mais il représente bien cette reconnaissance de l'originalité, de l'innovation que le Collège de France a. On peut pas dire toujours, parce qu'il y a eu des erreurs aussi. Il a laissé passer un certain nombre de personnalités qui auraient pu être élues. Mais le Collège de France, en général, a tout de même assez bien réussi dans ses recrutements grâce à cette grande liberté. La grande chance que nous avons, c'est que le Collège des professeurs est la seule instance de décision. Et c'est très exceptionnel. Donc, nous nous entendons, nous commerçons entre nous, et puis nous décidons.
À quoi ressemble on a le droit de dire à quoi ressemble une assemblée des professeurs du Collège de France quand vous vous réunissez? Ça se passe le dimanche?
Écoutez, on se réunit le dimanche après-midi, c'est assez formel puisque nous procédons à des élections, mais on se réunit aussi beaucoup de manière informelle, notamment le dimanche matin et en d'autres occasions. Et là, la parole est moins ritualisée et plus libre. Et nous pouvons en effet débattre des projets à plus ou moins long terme de succession, de remplacement, de renouvellement. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de laboratoires au Collège de France, de laboratoires scientifiques, en physique, en chimie, en biologie, qui sont là, qui accueillent des équipes, et il y a donc beaucoup de décisions à prendre lors de ces assemblées du dimanche.
L'iconographie est très riche dans cet ouvrage, le Collège de France, 5 siècles de libre recherche. Vous reproduisez de nombreuses photos des professeurs au grand complet et on n'y voit pas beaucoup de femmes. Écoutez un extrait de la leçon inaugurale de Jacqueline de Romilly en 1973. Elle était la première femme élue au Collège de France.
Alors je voudrais vous retracer un peu cette aventure et évoquer d'abord avec vous le surgissement de ces personnages dans Athènes. Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la grande période d'Athènes. D'autre part, c'est la période de Périclès, c'est l'époque quand mes sophistes, si j'ose employer ce possessif, étaient à Athènes, c'est le moment où on travaillait aux constructions de l'Acropole. Athènes avait triomphé dans les guerres médiques, c'était la cité importante, elle avait un empire, c'était la grande prospérité et l'essor intellectuel. Et c'est à ce moment-là que se place cette aventure pratiquement entre 440 avant Jésus-Christ et 400 avant Jésus-Christ. Il faut se rappeler que ça va dans l'autre sens. J'aurais épuisé toute ma vie à rappeler aux gens qu'il faut compter dans l'autre sens. Peut-être qu'ici, c'est pas indispensable, je ne sais pas.
Jacqueline de Romilly a été titulaire de la chaire de la Grèce et la formation de la pensée morale et politique de 1973 à 1984. Alors, c'est un peu le serpent de mer, mais pourquoi si peu de femmes au Collège de France, même si ça s'arrange, hein,
écoutez,
en tant que compagnon?
Il faut un peu corriger cette idée. Nous sommes à près d'une dizaine de femmes aujourd'hui sur 45 professeurs, ce qui est beaucoup plus que les professeurs de classe exceptionnelles dans les disciplines scientifiques à l'université. Nous faisons mieux qu'en physique, qu'en mathématiques, qu'en biologie, qu'en philosophie à l'université. Donc nous ne faisons pas si mal, nous faisons un gros effort, et ce qui est, je crois, très réussi en ce moment, c'est en particulier que nous avons fait beaucoup d'élections de femmes dans les disciplines scientifiques, ce qui est nouveau. Nous avons des femmes en physique, en biologie, bientôt en mathématiques. Alors qu'auparavant, Jacqueline de Romilly, c'était dans les disciplines des humanités, oui. On a pu voir des femmes dans les disciplines de l'orientalisme, mais aujourd'hui, je crois que la barrière est franchie, nous avons fait de très belles élections dans les disciplines scientifiques, et nous en ferons d'autres, puisqu'une fois que le moment est enclenché, on dit souvent que plus il y a de femmes dans un corps électoral, plus il y en a parmi les élus. Donc je crois que le mouvement est irréversible, et je pense que depuis 10 ans que je suis au Collège de France, nous avons bien fait.
Vous avez parlé de l'Orient à l'instant en tant que compagnon. L'Orient, c'est vraiment quelque chose de très très important pour le Collège de France depuis les débuts, au fond. Hein.
Je dirais surtout depuis le début du 19e siècle. Hein. C'est là, bon, avant, il y a eu évidemment l'arabe. Il y a toujours eu, très vite après les langues de l'origine, hein, le grec, latin, hébreu, il y a eu de l'arabe au Collège de France. Mais c'est au Collège de France que s'est fondé l'orientalisme comme discipline du 19e siècle. Et le Collège de France est toujours resté au fer de lance de ces disciplines. Au 19e siècle, il était très lié à la Bibliothèque nationale. N'oublions pas qu'il n'y avait pratiquement pas d'université en France au 19e siècle. Il n'y avait pas de recherche universitaire. La recherche se faisait au Collège de France ou à la Bibliothèque nationale pour ces disciplines. Renan, Salomon, Monck, tous ces gens sont passés de la Bibliothèque nationale au Collège de France. C'est là qu'ils étudiaient les manuscrits en étant conservateurs. Et oui, on peut dire que c'est au Collège de France que l'orientalisme s'est fondé, notamment grâce à l'aide de beaucoup de professeurs juifs venus d'Allemagne qui ne pouvaient pas accéder à des postes universitaires en Allemagne. L'orientalisme a été largement fondé en France grâce à eux. Et la discipline est préservé. Nous sommes toujours très forts en assyriologie, en égyptologie, dans toutes les disciplines qui représentent l'orientalisme. Et quand il n'y a pas de professeur, de manière passagère, il y a toutes les bibliothèques qui sont là et qui sont les bibliothèques les plus riches de ce point de vue dans notre pays.
On continue notre histoire du Collège de France, 5 siècles de libre recherche, c'est le titre de votre ouvrage, Antoine Compagnon, paru chez Gallimard. On fait une pause avec Lou Doyon, Where to Start, où commencer sur RFI. Sur RFI, Antoine Compagnon, nous parlions justement pendant le disque du financement du Collège de France. Une fondation a été créée récemment pour suppléer un peu les manques du budget de l'État qui n'augmente pas comme un peu partout.
Oui, nous avons créé une fondation du Collège de France il y a quelques années parce qu'il y a un certain nombre d'actions pour lesquelles nous avons besoin de suppléments de budget. Vous connaissez l'histoire. Actuellement, les budgets de toutes les institutions n'augmentent pas et pourtant nos activités augmentent. Et il faut citer en particulier la diffusion numérique puisque le Collège de France est le premier site de diffusion numérique des connaissances, premier site francophone.
Vous avez les meilleurs MOOCs du monde, hein, comme on dit.
On a des cours qui sont diffusés, je crois que l'an dernier c'était 15 millions d'heures qui avaient été téléchargées en 2014. Tout ça demande en effet une aide financière. Alors pour le numérique, nous avons l'aide de la Fondation Bettencourt, qui est très importante. Et il y a aussi la Fondation du Collège de France qui lève des fonds. Alors là, c'est plutôt pour l'action scientifique, hein, pour les laboratoires, parce qu'on a ouvert beaucoup de mètres carrés de laboratoires de physique, de chimie et de biologie dans les dernières années, puisqu'il y a eu de grands travaux au Collège. Le Collège de France s'est complètement transformé depuis 20 ans, hein, l'architecture du Collège. Beaucoup de mètres carrés de laboratoires ont été ouverts. Mais ensuite, dans ces laboratoires, il faut mettre des équipes, il faut mettre des équipements. Et pour cela, le Collège de France, oui, cherche des fonds, lève des fonds. Et il y a eu une campagne assez vigoureuse l'an dernier. Nous allons continuer.
On parlait à l'instant de la science, de la physique, des laboratoires au Collège de France. Je voudrais vous faire écouter, Antoine Compagnon, la voix de Pierre-Gilles Le Gène, prix Nobel de physique 1991 et qui a été longtemps titulaire de la chaire de physique de la matière condensée entre 1971 et 2004.
Les mathématiciens entrent très jeunes et nous disent, c'est eux qui le disent, qu'ils cessent d'être productifs très tôt. Nous, physiciens, nous entrons un peu plus tard. Moi, j'ai dû entrer à 38 ans, je ne sais plus très bien, quelque chose comme ça. Nous avons la chance d'être productifs un peu plus tard. Ça dure un peu plus longtemps. Nous n'avons pas la chance des peintres. Nous ne pouvons pas, comme Picasso, continuer à inventer jusqu'à 80 ans. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais on a un statut intermédiaire qui est pas mal.
Pierre-Gilles de Gène, l'intitulé de votre chaire au Collège de France, c'est donc la physique de la matière condensée. Alors c'est un terme qui est à la fois évidemment un peu obscur pour celui qui ne connaît pas, et en même temps qui ouvre des perspectives assez poétiques finalement sur la matière.
C'est un de ces titres un peu vague, volontairement vague, qui m'a permis de changer constamment de sujet pendant 30 ans, tout en restant à l'intérieur de l'intitulé. Là-dedans, il y a un côté qui est délicieux, parce que chaque année, vous essayez de trouver un sujet qui n'est pas encore compris, mais qui a des chances de pouvoir s'ouvrir. Et ça, c'est une pêche à la ligne très délicate. Il y en a qui refusent de s'ouvrir, et il faut surtout pas, dans l'autre sens, prendre quelque chose qui est déjà compris et répéter des choses qui sont connues. Il faut apporter sa propre livre de chair, il faut faire avancer le sujet.
Pierre-Gilles de Gène était au micro de Jacques Munier sur France Culture en 2002. Antoine Compagnon, un mot de réaction, apporter sa propre livre de chair.
Je crois que pour les scientifiques comme pour les littéraires, Pierre-Gilles de Gène rappelait que la liberté donne beaucoup de responsabilités. Le Collège de France n'est pas une sinécure, comme l'ont rappelé les professeurs que vous nous avez fait entendre. Et je sais que, pour beaucoup, c'est lourd de se renouveler chaque année, de, en effet, mais en même temps, c'est une prodigieuse incitation au travail. Les professeurs du Collège de France sont, dans l'ensemble, très productif, très efficace, grâce aux bonnes conditions dans lesquelles ils travaillent et grâce aux contraintes qu'on leur donne.
Alors les cours du Collège de France sont, on le disait en commençant cette émission, ouverts à tous. Écoutez le témoignage de Martine, elle est retraitée, elle était au micro de Baptiste Etchegaray sur France Inter en 2011.
Aller au grand amphithéâtre Marguerite de Navarre où Monsieur Compagnon donne ses conférences. Oh ben, il y a déjà beaucoup de monde, regardez. Là, c'est la queue pour rentrer à l'amphithéâtre. Parce que Monsieur Compagnon, vous savez, c'est un peu... c'est la star. Il y a des gens qui viennent une heure avant pour pouvoir rentrer dans le grand amphithéâtre. Mais là, il y a déjà, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Non, mais je vous dis, c'est Marilyn Monroe, hein. C'est là.
On n'a pas de vécu. Non, c'est pour rire.
Ça vous amuse, Antoine Compagnon ?
Oui, ça me distrait. Parce que moi, pendant ce temps-là, je suis dans les coulisses, dans mon bureau, à préparer mon cours. Et c'est toujours un moment prodigieux. On entre dans ce grand amphi et soudain, le silence se fait. C'est un endroit très silencieux. C'est très agréable de faire cours au Collège de France parce qu'on est dans de bonnes conditions. On a un auditoire qui vous attend et, en effet, qui vous aime, mais qui est aussi très exigeant.
Mais comment on fait pour faire un cours qui puisse intéresser, captiver à la fois une petite dame retraitée et à la fois quelqu'un de très très pointu?
Eh bien, c'est ça le défi du professeur au Collège de France, et je dirais qu'il est le même dans toutes les disciplines, que ce soit en mathématiques, en chinois, en philosophie ou en littérature. Nous avons un public très hétérogène dans l'amphithéâtre. Il y a un public général, cultivé, de très bon niveau. Il y a des étudiants, puisque les étudiants viennent des universités parisiennes, ils viennent même des lycées voisins. Hein. Dans mes cours, il y a des élèves qui viennent de Louis-le-Grand et d'Henri IV. Et ils viennent aussi les plus grands spécialistes. C'est-à-dire que dans l'amphi, il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que vous sur le sujet que vous traitez. Ça, c'est différent de ce qui se passe à l'université. Il y a toujours quelqu'un qui en sait plus. Alors, le défi, c'est d'intéresser à la fois ce public cultivé et le spécialiste le plus pointu. Je crois que c'est ça qui donne aussi l'attrait des cours du Collège de France, c'est de relever ce défi-là. Et encore une fois, il est le même pour le mathématicien et pour le littéraire.
Alors, votre cours pour l'année 2015-2016, enfin, qui commencera le 5 janvier 2016, je crois, portera sur les chiffonniers littéraires. En deux mots, de quoi s'agit-il, Antoine Compagnon?
Il s'agit de cette grande figure du chiffonnier sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, parce qu'il y a eu un moment où vraiment c'est un type parisien, un type français. Il n'y a de chiffonnier qu'à Paris, d'ailleurs. Et à ce moment-là, pendant cette période, après la révolution industrielle et avant la révolution de l'industrie chimique, il fournit des matières premières indispensables à toutes les industries, la papeterie, l'allumetterie, etc. Et donc, on le trouve dans toute la littérature, dans la politique, on le trouve dans les représentations picturales, chez Daumier, chez Gavarni, partout. Donc, j'explorerai cette figure du chiffonnier de 1830 à 1870, en gros.
J'invite donc tous nos auditeurs qui le peuvent à venir vous écouter 11 place Marcelin Berthelot dans le 5e arrondissement de Paris à partir du 5 janvier. Et puis je les invite aussi à lire ce passionnant ouvrage Le Collège de France, 5 siècles de libre recherche, paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Antoine Compagnon. La semaine prochaine, nous demanderons avec quels outils travaillent les savants.